jeudi, on débutera la présentation des matchs, s'il y a match, de l'Impact. Et ça sera jeudi à compter de 20h. Il sera en compagnie Arcadio, qui sera avec nous un petit peu plus tard à 21h04, en compagnie de Jérémy Filosa, qui est présentement avec nous. Salut, Jérémy!
Salut!
Bon, Jérémy, avant que Thierry Henry s'est adressé aux médias, voilà quelques instants à peine, on va entendre l'intégrale là, de ce point-là, en fait, les meilleurs moments. Mais dressons un tableau rapide là, de ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la MLS, des nouveaux cas de COVID-19, et explique-nous un peu ce qui s'est passé.
Ben, premièrement, la MLS a confirmé l'information qui circulait depuis quelques jours. Du côté du Nashville SC, il y a 5 cas confirmés de COVID-19 et il y a 4 cas en suspens. Donc, on en a parlé un petit peu hier, ces fameux cas où on n'a pas vraiment une réponse claire, nette et précise du test. Donc, ces joueurs-là doivent être retestés. Mais potentiellement, si on se retrouve avec 9 cas, est-ce que Nashville sera éliminé du tournoi? Devront-ils déclarer forfait un peu comme ça a été le cas pour Dallas? Au moment où on se parle, leur premier match était prévu pour demain contre Chicago. Ce match-là a été remis à plus tard. Nashville ne s'est pas entraîné, Jérémy, depuis mardi de la semaine dernière. Donc, ça n'aurait pas fait beaucoup de sens de leur demander de jouer demain. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles. Dallas n'est plus dans le tournoi. On n'a toujours pas le nouveau format du tournoi. Est-ce que les groupes vont changer? Est-ce que l'horaire va changer? C'est tout ce que nous savons jusqu'à maintenant. Et Toronto, on le sait, ils ont dû retarder leur arrivée du côté d'Orlando. Donc, leur premier match contre DC United devait avoir lieu vendredi soir. Il aura lieu dimanche matin seulement. Mais attention, l'Impact affronte Toronto FC 3 jours plus tard, le mercredi. Donc, un avantage potentiel pour l'Impact là. Et du côté des Whitecaps, on va en parler tout à l'heure, mais 5 joueurs ont déclaré forfait.
Qu'est-ce que le coach de l'Impact avait à dire? Thierry Henry, évidemment, a rencontré les médias par vidéoconférence. Oui. Raconte-nous un peu comment lui évalue cette situation-là.
Ben, écoute, il répète un peu ce que tout le monde répète, c'est que, tu sais, la situation, elle est ce qu'elle est, on peut pas la changer, c'est pareil pour tout le monde. La seule chose qui semble titiller vraiment Thierry, et il a pas voulu faire de reproches parce qu'il comprend la situation, mais, tu sais, il a fait référence, par exemple, au camp d'entraînement, à un moment donné, en anglais, où il dit « On a joué 5 matchs préparatoires en février pour se rendre compte que le 4-3-3 marchait pas ». Et il dit une chance qu'on avait joué ces 5 matchs-là, parce qu'on n'aurait jamais su que c'était pas la formation pour nous. Et présentement, ben on n'a pas ce luxe-là. On n'a pas la possibilité de jouer un véritable match, donc ça rend la situation compliquée. Il va en parler un petit peu en français. La première question qui lui a été posée, ses réflexions par rapport à ce premier match contre la Nouvelle-Angleterre. On rappelle que l'Impact avait battu New England 2-1 au début de la saison. On l'écoute.
C'est jamais évident de battre une équipe deux fois, pratiquement d'affilée, hein, ou la même saison. Mais bon, on va essayer de le faire. Et encore une fois, je disais, comme la première fois on a joué contre la Nouvelle-Angleterre, Bussarina est un entraîneur d'expérience. Vous savez, quand vous avez un joueur comme Hill, c'est des joueurs qui peuvent marquer la différence à n'importe quel moment. Il y a des joueurs aussi d'expérience dans cette équipe. Donc, ouais. Ça va vraiment pas être évident. Ça va être comme si, pas comme si, c'est la sensation que la saison commence encore une fois et on doit affronter encore cette équipe. On a pu les surprendre de par ce qu'on faisait. Je sais pas si on va pouvoir les resurprendre comme ça de par ce qu'on faisait, mais on verra bien et on s'adaptera à la situation. Ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit. La situation fait qu'on n'a pas pu faire de match amicaux. Et en général, quand tu prépares une saison ou tu prépares un tournoi, tu fais toujours au moins voire 4 ou 5 matchs amicaux pour voir un peu où tes joueurs sont physiquement, mentalement, ou même la tactique. Donc, c'est vrai qu'on pourra pas faire ça pour les raisons qu'on connaît et que je respecte tout à fait et que je sais très bien qu'on pourrait pas faire autrement. Mais, c'est vrai que c'est différent. Ça fait que tu te retrouves dans une situation où tu vas apprendre sur le tas dans la compétition, pardon, tout de suite. C'est une chose que je n'avais jamais connue avant et la situation, bien sûr, de COVID-19, de coronavirus, nous met dans cette situation. Pas que nous, hein, tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est obligé d'attendre de voir un peu où sont les joueurs parce que physiquement, à l'entraînement, ça peut être bien, ça court, mais jouer un match de football, c'est pas pareil, surtout au niveau de la compétition. Donc, c'est pour ça que je disais que les 5 matchs, voire 4 matchs, te donnent un peu plus d'idées à voir comment l'équipe peut être pour préparer ce premier match de compétition. Donc c'est ça, c'est un peu dans ce sens-là que je le disais.
Bonjour Thierry, c'est Jérémy Filosa. Coach, pouvez-vous nous parler d'un ou deux joueurs peut-être de qui vous avez appris beaucoup lors des dernières semaines comparativement peut-être au début de la saison? Et avez-vous une idée déjà de votre 11 partant pour jeudi soir? Merci.
Ben, je pense que tu sais déjà, Jérémy, que j'aime pas trop cibler les joueurs, même si c'est vrai, je sais que c'est ta question, mais je pense que comment l'équipe s'est comportée pendant cette période et toujours, je pense que j'ai appris beaucoup plus de mon équipe, dans cette période au niveau du mental et au niveau de, je parle pas seulement terrain, hein, je parle de la façon de se gérer, la façon d'être. Et ça n'a pas été facile pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour nous, mais j'ai vu vraiment une équipe rester vraiment soudée, s'entraider. Donc voilà, c'était bien de voir ça. Pas forcément un joueur, voire deux, mais vraiment, vraiment l'équipe. L'équipe m'a. Je veux pas dire que c'était surprenant parce que l'équipe depuis le début que je suis arrivé a souvent répondu. Entre guillemets, bien sûr, c'était que le début à mes attentes avec le staff. Donc voilà, l'équipe, ouais, toute l'équipe, pas seulement un joueur ou deux. Après, oui, j'ai une idée pour l'instant de voir qui va commencer. Mais tu sais très bien, Jérémy, je le dis souvent, ça peut changer ce soir, comme ça peut changer demain matin ou le matin du match. Donc on verra bien, on s'adaptera. Mais oui, pour l'instant, oui, il y a une idée.
OK. Ce matin, la MLS a annoncé le report de quelques matchs qui étaient prévus au calendrier. Quelques matchs vont être repoussés de quelques jours, dont un d'une équipe de votre groupe, Toronto. Je me demandais tout d'abord, est-ce que vous avez des indications comme quoi votre deuxième match du tournoi contre Toronto pourrait être à son tour repoussé de quelques jours? Et puis, à quel point cet aspect-là particulier au calendrier, l'incertitude du calendrier affecte votre travail dans la préparation de vos hommes?
Personnellement, j'ai mangé, j'avais un truc à faire, je suis venu tout de suite vous voir, pas que vous d'ailleurs, mais s'il y a quelque chose qui a changé, je suis pas encore au courant. J'ai vu le changement, oui. Et comme je vous ai dit depuis le début de cette pandémie, il faut s'adapter à toutes les situations. Et je pense qu'il y a pas que nous, la MLS aussi s'adapte à toutes les situations. Et encore une fois, je le répète, je l'ai dit depuis le début. Peu importe ce qui se passe, peu importe les changements. Peu importe qui va jouer, qui va pas jouer, peu importe à quel moment, si ça va changer ou pas changer, il faut s'adapter. Donc voilà, faut être prêt.
Intéressant les propos de l'entraîneur de l'Impact, Thierry Henry, qui, Jérémy, j'ai l'impression, laisse tout le monde un peu sur son appétit, laisse planer un doute, on doit s'adapter. Ouais. L'impression que ça fait partie de la stratégie également.
Ouais, c'est sûr, parce que présentement, il y a personne qui sait à quoi s'attendre des adversaires. On a parlé à des joueurs qui nous disent, on fait même pas de vidéo. Vidéo sur quoi? Les équipes, ça fait 4 mois qu'ils ont pas joué, donc t'as des joueurs qui sont partis, t'as des équipes qui vont changer de style de formation. Donc Thierry Henry non plus ne veut pas trop dévoiler ses cartes. Moi, je pense qu'on va revenir avec le schéma qui a fonctionné chez l'Impact. C'est-à-dire 5 défenseurs, 2 milieux, 3 attaquants, avec des défenseurs latéraux qui vont monter et qui vont descendre le terrain. Moi, je m'attends à voir ça. Encore là, c'est pas impossible qu'on soit surpris par la stratégie de Thierry Henry. Mais bon, comme vous l'avez bien compris, là, il n'y a pas l'intention de dévoiler ses cartes tout de suite. Là.
Non, et surtout, il a dit, je veux pas cibler de joueurs, je veux pas donner de mettre de drapeau sur aucun joueur de son équipe pour que l'équipe adverse puisse le surveiller. Tu as demandé qui t'a surpris en voulant dire qui a dominé. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il nomme Urruti, entre autres lui qui avait marqué 3 buts dans les 2 premiers matchs de la saison régulière?
Non, écoute, honnêtement, là, j'ai pris une chance. Je commence à connaître quand même assez bien Thierry Henry. Je sais qu'il veut pas montrer ses cartes, mais moi, je me dois de poser des questions quand même parce que j'aurais aimé ça savoir s'il y avait un ou deux joueurs, peut-être, qui avait peut-être pas remarqué des choses en début de saison, mais qui tout d'un coup, ça clique et il se dit, hey, lui, peut-être que je peux l'utiliser à telle position ou vraiment il me démontre des choses des aptitudes que je savais pas qu'il avait. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il me donne une réponse clair de toute façon. Là.
Évidemment, ce que j'apprécie dans ces propos de l'entraîneur de l'Impact, Thierry Henry, c'est qu'on ne s'en fait pas outre mesure avec les changements de dernière minute. Je pense qu'on est prêt mentalement. Quand on entend que 5 joueurs des Whitecaps de Vancouver qui ne font pas le voyage, on peut s'attendre à tout moment qu'il y ait des modifications. J'ai l'impression que c'est ça la mentalité présentement.
Ben et oui, t'as raison. Du côté des Whitecaps, là, c'est pas idéal. Là. 5 joueurs aujourd'hui, dont Lucas Cavallini, leur nouveau joueur vedette, ne seront pas du tournoi. Dans le cas de Cavallini, malheureusement, il a perdu 2 personnes dans sa famille dues à la COVID-19 et présentement, il n'est pas à une bonne place mentalement. Il veut demeurer près de sa famille. Il y a des joueurs qui ont des conjoints qui vont accoucher bientôt. Il y a des joueurs qui ont des conditions médicales qui les rendent vulnérables au virus. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a 5 joueurs qui ne participeront pas. Écoute, en tout et partout, là, on va se le dire, là, ça va drôlement bien chez l'Impact de Montréal. On a une équipe en santé. On a une équipe où il n'y a pas de cas de COVID. On est arrivé à Orlando, il n'y a pas eu Danny Croche, mis à part le fait là, qu'on a, à un moment donné, interrompu un entraînement parce qu'il y avait un cas dont qui n'était pas conclusif. En fait, qu'on n'avait pas les bonnes conclusions là, pour le test. Mais en tout et partout, on est dans un bon état d'esprit. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Toronto FC ont vu leur match être déplacé de vendredi soir à dimanche matin. Et là, 3 jours plus tard seulement, c'est le gros match, on va se le dire, dans ce groupe-là, entre l'Impact et le Toronto FC. Ça va être un net et clair avantage pour l'Impact de Montréal. Est-ce qu'ils vont savoir en profiter? Je ne sais pas. Mais on peut pas dire présentement que l'Impact a beaucoup de qu'il y a beaucoup de X là dans leur case à eux là.
OK, parfait. La situation n'est pas évidente. Juste avant qu'on ait la pause et qu'on entende les commentaires des joueurs, juste savoir du côté de la MLS, est-ce qu'on a émis un communiqué? Est-ce qu'on a donné de l'information, savoir si on poursuivait? Parce que là, on change les matchs de place, on doit bouger le calendrier. On a toujours une équipe de, j'allais dire de trop, mais une équipe partie, donc il manque un duel en quelque part. Est-ce qu'il y a de l'information qui est arrivée là-dessus?
Ben écoute, tout ce qu'on a appris ce matin, c'est que la MLS a confirmé les 5 cas positifs de Nashville et a indiqué être en attente de résultats pour 4 autres joueurs. Tu sais, on est rendu là à moins que 24 heures du premier match ou à peu près là, c'est demain 20h Miami contre Orlando et on sait toujours pas si Nashville va pouvoir participer à ce tournoi-là et surtout s'ils ne sont pas là. Comment on réorganise les groupes? Je veux dire, on est passé minuit moins une, là. On est là. Je trouve ça incroyable de savoir qu'on est si près du premier match et qu'on n'a pas une ligne de conduite claire, nette et précise de tous les règlements du tournoi. Parce que je peux pas croire qu'on va se lancer dans ce tournoi-là avec un groupe à 6 équipes et un autre groupe à 3 équipes. Ces équipes-là, est-ce qu'on leur donne des victoires garanties? Si c'est le cas, ben les équipes du groupe B vont pratiquement être toutes assurées de passer au tour suivant. Ce serait injuste. Donc, il faut qu'on sorte publiquement et qu'on nous dise comment ça va fonctionner, ce tournoi-là. Mais avant cela, je pense qu'on attend de voir qu'est-ce qui se passe avec les 4 cas en suspens à Nashville. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va être en mesure de nous éclairer.
Toujours en conversation avec le collègue Jérémy Filosa qui est avec nous. Jérémy, je veux savoir, du côté des joueurs, comment on perçoit la situation à l'aube de ce premier match jeudi face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre dans une situation un peu... abracadabra du côté du tournoi de la MLS, là.
Ben, écoute, je pense que les gars font le plus attention possible. Je pense qu'ils se font répéter jour après jour. Faites extrêmement attention à ce que vous touchez, à qui vous parlez, puis tout ça, parce qu'on veut pas se retrouver dans une situation où il n'y aurait ne serait-ce qu'un cas, parce que là, on pourrait être obligé de remettre tout le monde en quarantaine. Donc, j'ai entendu des commentaires de joueurs qui ont dit, tu sais, on a quasiment peur de sortir de notre chambre d'hôtel. Comment on va faire pour garder la concentration sur le terrain? Ce sera vraiment pas évident. En plus que, en plus de la pandémie, des cas, des tests, à Orlando... il n'y a aucun entraînement entre midi et 19h, donc faut trouver des temps sur le terrain pour chacune des équipes, soit tôt le matin, ce matin c'était à 8h l'entraînement de l'Impact de Montréal, sinon c'est tard en soirée, on s'en est parlé un peu lundi, samedi soir l'Impact s'est entraîné à 20h30, ça a fini vers 22h30, et le lendemain matin, ils avaient le terrain à 8h. Fait que ça te donne une petite idée. Donc, on vous laisse écouter Samuel Piette qui nous parle de tout cela, en plus de la chaleur, bien sûr.
S'entraîner à 8h le matin, personnellement, depuis mon arrivée au club, on n'a jamais fait ça. Donc, c'est très, très tôt. Je sais qu'il faut s'adapter. Mais même à 8h le matin, tu arrives sur le terrain, il fait déjà 30 degrés. C'est assez difficile. Après, bon, on sait que avec des joueurs infectés, tout ça, on n'a pas nécessairement peur, mais on fait pas exprès de sortir de nos chambres. Donc, le reste de la journée, on reste dans nos chambres. Chose que normalement, quand on est à Montréal, dans une saison régulière... on est un peu plus libre, on voit la famille, etc. Donc là, on est un peu plus isolé.
clairement, Jérémy, j'écoute Samuel Piet, j'écoute ses doléances et je ne comprends toujours pas pourquoi la MLS a été s'installer là du côté d'Orlando. T'sais, tu dis exemple, la NBA, on peut le faire, on est au complexe Disney, ça se joue à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, mais là, il fait chaud. En plus, les cas de COVID-19, ça me semble ça restreint la facilité pour les équipes de s'entraîner et de jouer quand la température ne te le permet pas.
Ouais, écoute, je pense que si la Ligue nationale de hockey avait pris sa décision en même temps que la MLS, probablement qu'on aurait présentement une bulle à Las Vegas, alors qu'on voudrait pas en avoir.
Ouais,
donc,
t'as raison.
Le tu sais, le fait qu'on a pris cette décision-là de façon aussi hâtive, puis je me souviens d'avoir lu les commentaires d'un médecin à Orlando, parce qu'il y a quelqu'un qui avait interviewé un médecin pour savoir qu'est-ce que lui pensait de la situation de la MLS qui allait s'installer là-bas et de la NBA, et a dit la vérité, c'est que on a seulement commencé à tester sérieusement dans l'État de la Floride il y a 3 semaines. Mais peut-être que si on l'avait fait avant, la situation avait été différente, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde ça, puis on se dit ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on dirait que tout est contre la MLS dans ce tournoi-là. Ceci dit, je suis certain que si on avait mis le tournoi, par exemple, à Vancouver, on aurait probablement eu les mêmes problèmes parce que les joueurs de Dallas ont amené le virus avec eux, de Dallas. Les joueurs de Nashville ont amené le virus avec eux, donc ça n'aurait pas empêché ça. Mais bon, aujourd'hui, on est obligé de vivre avec, malheureusement.
Est-ce qu'il y a certains joueurs, puis entre autres Samuel Piet, est-ce que l'idée de ne pas participer, c'est venu dans sa réflexion?
Ben, écoute, on le sait, là, on en a parlé hier, Carlos Vela, le joueur étoile de prédilection de la MLS, a déclaré forfait parce que sa conjointe est enceinte et elle va accoucher bientôt. Aujourd'hui, justement, tout à l'heure, je vous parlais des Whitecaps, il y a un joueur du nom de Andy Rose qui a justement utilisé son droit de ne pas participer au tournoi parce que sa conjointe va accoucher de leur premier bébé dans les prochains jours. Mais Samuel Piet est dans la même situation. Sa conjointe va accoucher à l'automne et on lui a posé la question, toi, as-tu pensé ne pas y aller? On l'écoute.
Honnêtement, non. De mon côté, je veux dire, ma conjointe est due pour début septembre, donc d'ici là, le tournoi sera terminé. J'ai la chance, comme j'ai dit auparavant, d'être un gars de Montréal, donc j'ai ma famille là, il y a sa famille à elle qui est là-bas. Donc de ce côté-là, on est bien entouré. Pour les autres joueurs ici, je pense que maintenant qu'on est ici, on est focus sur faire le boulot, en fait, puis de commencer ce tournoi-là, puis faire le maximum possible. Mais non, je pense que tout le monde est évidemment... Ben, en fait, tout le monde est content d'être ici, de pouvoir jouer au foot, parce qu'après aussi, le tournoi, on sait pas ce qui nous attend. Est-ce que le tournoi sera la seule chose pour l'année 2020? Est-ce qu'il y aura le résumé de la saison régulière? On l'espère, mais c'est encore un point d'interrogation sur ça. Donc, je pense que tout le monde était content de pouvoir retrouver le terrain. Puis une fois que t'es rendu sur place, puis que tu sens l'atmosphère du tournoi qui commence tranquillement pas vite à embarquer, je pense que t'es content d'être ici, puis je sors de commencer. Là.
Ben écoute, oui, parce qu'on est en pleine préparation pour aller jouer au soccer comparativement au moment où tout le monde est en confinement au Québec. Disons que tant qu'être confiné dans ton appartement, mieux vaut se préparer à jouer au soccer. Là.
Ouais, c'est ça. Puis les joueurs, on le sait, c'est des passionnés. Ils veulent être sur le terrain. T'sais, j'ai pas parlé à un seul joueur qui m'a dit « moi, j'ai peur ». Les gars, ils ont tellement ça dans la tête. Ils sautent déjà sur le terrain en sachant qu'ils peuvent se faire casser une cheville. Ils peuvent, à un moment donné, entrer en collision avec un joueur et recevoir une commotion cérébrale. Ils sont au courant du risque, sont habitués de savoir qu'il y a des risques quand tu sautes sur un terrain de soccer. Puis on dirait que la pandémie, il traite ça un peu de la même façon.
Parlons maintenant de Victor Wanyama, lui, de son côté. Il était là également en entretien ce matin?
Oui, exactement. Victor Wanyama, c'est un joueur, pour ceux qui ont peut-être pas suivi le début de la saison de l'Impact, qui est arrivé seulement pour le dernier match que l'Impact a disputé au mois de mars. C'était un match de Ligue des Champions. Il venait d'arriver à Montréal. Il venait de commencer à s'accoutumer à sa nouvelle équipe. On parle ici d'un joueur qui vient du Kenya, qui arrive ici et quelques jours après son arrivée seulement, confinement, donc il est pris dans sa chambre d'hôtel pendant plus de 3 mois parce que les joueurs de la MLS n'ont pas obtenu l'autorisation pour retourner chez eux, dans une ville qu'il connaît pas, il n'est pas d'amis. Écoute, je peux même pas m'imaginer le rôle inverse. Moi, le prends-moi aujourd'hui, envoie-moi au Kenya, mets-moi dans une chambre d'hôtel pendant 3 mois. Oh, palais, ça se peut que ça aille pas trop bien.
En autant, donc, j'ai accès à Netflix, je suis correct.
Ouais, je le sais, mais même Netflix, à un moment donné, ça fait son temps. Écoutons Victor Wanyama sur ce qu'il a vécu pendant les 3 mois d'isolement.
It's harder mentally. You need to be strong because you know your family is far away and you are here. The good thing was it was not only in Montreal; it was all over the world. So we had to take the precautions and make sure everyone is safe. So it was a really tough period for me, you know, joining a new club, and then everything just went wrong with the pandemic hitting the world. So it was a really tough period, but you know. I had to look also at the positive sides, which is, staying safe.
Alors, il a dit, mentalement, ça a été très difficile. T'es loin de ta famille, t'es tout seul, t'arrives dans un pays que tu connais pas, et là, la pandémie frappe, et t'es littéralement laissé à toi-même. T'es pas supposé visiter d'autres mondes, t'es pas supposé aller dans la chambre de ton collègue à côté ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et il a dit, la seule chose, c'est que tu te dis, écoute, il faut que je le fasse, il faut que je reste en santé pour qu'éventuellement, on puisse relancer le tout. Mais vous pouvez vous imaginer que pour un joueur comme ça, ça a dû être doublement difficile que pour le commun des mortels.
Bon, mais écoute, Jérémy, c'est une grosse journée au boulot pour toi. On espère une journée chargée de bonnes nouvelles demain, puis qu'on soit en mesure de s'en parler aux amateurs de sport. Je te dis un gros merci, Jérémy.
OK, je m'en vais respirer. Je m'en prends un petit verre de vino, là. Je vous laisse. Ça a été une longue journée. Bye.
Salut, bye. Jérémy. Au revoir à la prochaine.